Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le lundi 22 novembre.
Xavier Bertrand, pour les besoins du débat, pour la deuxième ou troisième fois, fait semblant de ne pas comprendre.
Mais non, je vais aller vite, moi, il y a urgence.
Oui, mais moi aussi, il y a urgence.
C'est l'un des temps forts qui a eu lieu hier soir sur Europe 1 et CNews.
Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Valérie Pécresse et Éric Ciotti réunis pour un troisième débat avant le congrès d'investiture Les Républicains pour la présidentielle. Et pour la première fois hier soir, les candidats ont quelque peu lâché les chevaux à 9 jours du scrutin.
Il a beaucoup été question de sécurité et d'immigration.
Déploiement de l'armée dans les quartiers sensibles, rétablissement du service militaire, moratoire sur l'immigration et j'en passe, voilà quelques-unes des mesures défendues et débattues hier soir. Quel candidat a marqué des points ou à l'inverse déçu? Cette droitisation des propositions est-elle la bonne stratégie face à Éric Zemmour et Marine Le Pen? Autant de questions que l'on posera à 6h10 au politologue Bruno Cotterès.
L'autre grande actualité à la une ce matin, c'est ce nouvel incident dans un stade de foot.
Et oui, la rencontre Lyon-Marseille a été interrompue puis arrêtée hier soir après que le joueur de l'OM, Dimitri Payet, a été touché par une bouteille d'eau jetée d'une tribune. On revient dans un instant dans le journal. Cette question, Omblin, est-ce la fin d'une époque? L'enseigne de grande distribution Carrefour annonce l'arrêt des prospectus papier.
Alors pour l'instant, Julien, ça ne concerne que Paris et Lyon. Ça commencera à partir du 17 janvier. Pour beaucoup, le catalogue papier ne fait qu'encombrer les boîtes aux lettres et constitue une part importante de la pollution au papier en France. Pourtant, on n'a pas vraiment trouvé mieux que le prospectus pour annoncer des promos et la sortie de nouveaux produits pour faire venir les consommateurs dans les magasins.
Et la solution, c'est le numérique?
Et voilà, effectivement, c'est l'idée. Faire de la pub par SMS, par mail, via les réseaux sociaux. Mais tous les Français ne sont pas connectés, notamment dans les campagnes. On en parlera à 5h40 avec un spécialiste de la grande distribution.
Et puis on terminera avec votre partition.
Dans le sillage de U2 au milieu des années 80, le groupe au succès phénoménal In Excess. In Excess et son idole Michael Hutchence disparu le 22 novembre 1997. Rendez-vous dans 20 minutes. Dans
6h20.
Dans 1h20. Voilà, je vais trop vite.
Ça va être un peu plus long que ça, là, cette matinale, Omblin. Restez avec nous. Voilà donc pour une partie du programme. La météo avec vous, Anissa Haddadi. Il fait bien plus froid ce matin, bonjour Anissa.
Oui, bonjour Julien, bonjour Omblin, on l'a senti, il va falloir vous couvrir, sortir les doudounes et les gros pulls, on va perdre 5 à 6 degrés hein, en moyenne sur l'ensemble du pays. Et la responsable, je la connais et je vais la dénoncer.
C'est
la bise.
C'est pas tout le temps ma faute. Hein.
Bien plus mesquine qu'Omblin, c'est la bise, ce vent de nord-est, hein, ce vent froid qui vient faire baisser les températures et qui va souffler sur toute la moitié nord du pays. Alors ce matin, on a 0 à 10 degrés. Alors l'avantage de la bise, parce qu'elle n'a pas que des défauts, c'est qu'elle va chasser les nuages. Et du coup, on a un ciel complètement dégagé sur une grande partie du pays. Nous n'avons pas de brouillard ce matin, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Sur le nord-est, on a quelques passages nuageux. Sur le grand quart nord-ouest, hein, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, là on a de belles éclaircies comme au bord de la Méditerranée. Cet après-midi, on a un ciel clair quasiment partout. On a des petites averses sur les côtes de la Manche et le sud-ouest. Sur la côte d'Azur et la Corse, des orages isolés. Et on a 6 à 8 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 15 dans le sud. Il fait donc bien plus frais.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Couvrez-vous. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Droit du sang, moratoire sur l'immigration ou encore l'armée déployée dans les quartiers sensibles, les 5 candidats à l'investiture Les Républicains, toujours plus à droite mais toujours pas de vainqueur. Troisième débat hier soir sur Europe 1, l'analyse dans un instant. Des barrages, des pillages, la Guadeloupe s'embrase depuis une semaine. Jean Castex doit recevoir les élus locaux en début de soirée pour apaiser les tensions. Des violences que cautionne l'un des principaux syndicats de l'île. Nous entendrons l'un de ses représentants. Et puis ce nouveau match de la honte hier soir, Lyon-Marseille définit arrêté après seulement 4 minutes de jeu. Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, a reçu une bouteille d'eau en pleine tête lancée depuis les tribunes. 8e incident de ce genre depuis le début de la saison de Ligue 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce lundi 22 novembre vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. 2 semaines avant le congrès des Républicains qui doit désigner le représentant de la droite à la présidentielle, 3e débat des candidats à l'investiture hier soir sur Europe 1 et CNews. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse sont revenus sur les thèmes forts de la droite. Louis Dragnel, chacun y est allé de sa proposition.
Tout d'abord, les candidats ont voulu montrer qu'ils sont clairement de droite. Il a donc beaucoup été question de sécurité et d'immigration. Ensuite, la force de ce débat, le plus animé de tous, eh bien, les cinq candidats ont pu échanger entre eux pour montrer leurs accords, mais aussi leurs différences, notamment sur la suppression du nombre de fonctionnaires, défendue par Valérie Pécresse et Éric Ciotti, qui a aussi défendu le droit du sang, mais également sur le moratoire migratoire et le rétablissement du service militaire proposé par Michel Barnier, sur l'extrême fermeté face aux Anglais de Xavier Bertrand ou encore la supériorité de la civilisation française vantée par Philippe Juvin. Sur tous ces sujets, quelques piques, mais jamais de passe d'armes. Les candidats ont aussi montré leur sensibilité personnelle. Michel Barnier a défendu la famille, Xavier Bertrand le handicap, Éric Ciotti s'est posé en défenseur de la civilisation, Valérie Pécresse de la rigueur et de la fermeté, et un peu à part, Philippe Juvin a prôné la défense et la réforme du système public français. Mais ce matin encore, impossible de deviner lequel des cinq candidats a le plus convaincu les 148 000 adhérents LR qui désigneront leur champion pour la présidentielle le 4 décembre prochain.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Et parmi les propositions des candidats, Michel Barnier envisage, s'il est élu président de la République, de réinstaurer le service militaire.
Je vais terminer sur cette question. Merci. Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et
vous
de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à travers un référendum.
Voilà
un service qui sera ouvert à l'armée, à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile.
Michel Barnier, hier soir sur Europe 1 et CNews, prochain débat le 30 novembre.
Faire retomber les tensions qui rythment les nuits en Guadeloupe, c'est l'objectif de la réunion qui se tiendra en début de soirée entre Jean Castex, le Premier ministre, et les élus guadeloupéens.
Oui, puisque l'île est le théâtre depuis une semaine de violentes émeutes sur fond de contestation de l'obligation vaccinale des soignants, du couvre-feu, du pass sanitaire, si bien que les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison. Aujourd'hui, une situation insurrectionnelle justifiée pour Jean-Marie Nomertin. Il est le secrétaire général de la CGT Guadeloupe.
Nous avons posé un cahier de revendication, un préavis de grève depuis le 2 septembre et on n'a aucune réponse. S'il y a une personne qui est responsable de la dégradation de la situation, c'est Macron. Nous disons que la population est en souffrance depuis tantôt. Personne ne s'en est préoccupé. En aucune manière, ce n'est pas en envoyant les forces de répression avec le RAID, avec le GIGN. On nous compare exactement à des terroristes, ce qui n'est pas le cas, à des mercenaires, ce qui n'est pas le cas. Et nous sommes mobilisés et nous serons mobilisés, quoi qu'il va se passer dans les jours qui viennent.
Des propos recueillis par Richard Garnier, correspondant Europe 1 en Guadeloupe. J'ajoute qu'un appel à la grève générale est lancé dès aujourd'hui en Martinique, signé par 17 syndicats. Il détaille 10 revendications comme la fin de l'obligation vaccinale des soignants, mais aussi la hausse des salaires et minima sociaux. Des violences urbaines, on en trouve aussi en Europe où le Covid gagne de plus en plus de terrain. Troisième nuit d'émeute aux Pays-Bas contre les restrictions sanitaires. Heure également constatée en Belgique.
Et pour l'heure, ces violences n'ont pas franchi les frontières françaises, même si la cinquième vague démarre de façon fulgurante.
Oui, c'est l'avertissement de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, hier sur Europe 1. Pour preuve, le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine, plus de 18 000 en moyenne tous les jours. Au CNTR, les contaminations explosent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Eh bien d'abord, à cause du variant Delta, plus contagieux. En ce moment, il circule massivement chez les 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées en France, ce qui accentue la pression sur les hôpitaux. Le variant Delta touche également les personnes vaccinées, mais sous des formes moins graves. Autre explication de ce rebond épidémique, le relâchement des gestes barrières depuis quelques mois, souligne Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille.
Les Français ont tendance à moins utiliser le masque, à retrouver les bonnes habitudes culturelles, de se serrer la main et de s'embrasser. Quand on se retrouve le matin au travail, par exemple, on constate également que dans certains départements, le port du masque dans des lieux publics clos sous passe sanitaire est conseillé, donc n'est plus obligatoire.
D'après ce spécialiste, pour espérer un Noël serein, il faut poursuivre la vaccination, à la fois des non-vaccinés et des personnes recevant leur troisième dose, et remettre l'accent sur la distanciation sociale et le port du masque. Il s'agit d'éviter à tout prix une saturation des hôpitaux déjà accaparés par les épidémies de grippe et de bronchiolite.
Océane Théard.
Toujours 100 000 à 150 000 postes vacants dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Les organisations patronale propose 10,5% d'augmentation en moyenne. Ce n'est pas assez pour les syndicats. Alors, une nouvelle réunion se tiendra le 16 décembre. En attendant, les patrons doivent faire tourner leurs établissements. Certains prennent les devants et rivalisent d'idées pour attirer les candidats. Illustration avec Caroline Baudry.
Fermeture des cuisines avancées d'une heure, présence des employés le midi ou le soir, jamais pour les deux services. Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs et patron d'un restaurant parisien, ferme même le dimanche. Seul moyen d'étoffer son équipe, 7 de ses employés ne sont pas revenus après les confinements.
Tous ces gens-là se sont retrouvés chez eux et se sont dit « mais oui, j'aime mon métier, mais oui aussi j'aime ma vie privée. Si on ne change pas, on n'aura plus personne ». Il faut qu'on sorte de ce schéma de forçat du travail. Nous ne sommes pas des mineurs.
Exactement ce qu'avancent les candidats que Paul, responsable de salle, voit défiler depuis 4 mois, en vain. Malgré des salaires revus à la hausse, 10 à 20% de plus qu'avant le Covid.
Même ça, ça ne marche pas, parce que je vous dis, ce que les gens préfèrent, c'est les horaires. Bah, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie, parce qu'on peut lui proposer autre chose dans d'autres secteurs d'activité, où il va faire ses 39 heures, il va avoir ses samedis, dimanches, et il sera payé pareil.
70 heures par semaine, pour moins de 2000 euros par mois, Paul est aussi passé par là. Plus jamais, confie le cadre dans la restauration. Les entretiens se poursuivent. Il se dit prêt à négocier en faveur de la future recrue.
Caroline Baudry.
On passe au foot avec cette nouvelle soirée noire pour la Ligue 1, la 8e du genre depuis le début de la saison.
Le match Lyon-Marseille a tourné court 4 minutes. Le capitaine marseillais Dimitri Payet a reçu une bouteille en pleine tête. L'arbitre, les deux clubs et les autorités locales ont mis 2 heures à décider de la fin du match.
Et fait rarissime, l'arbitre Rudy Buquet s'est exprimé au micro du diffuseur Amazon Prime Vidéo.
Oui, hein, pour expliquer pourquoi il a décidé de mettre un terme au match.
Il y a eu une première étape qui a été faite avec une annonce micro, je pense que tout le monde en avait conscience. Et la seconde étape, forcément, c'est le retour au vestiaire. Et en plus, un joueur a été touché physiquement, donc on se doit de protéger les acteurs du monde du football. Et nous sommes les premiers garants de leur sécurité, donc c'est la raison pour laquelle la décision finale a été prise. La décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public qui ont été pris en considération dans un premier temps. Mais ma décision in fine a été d'arrêter la rencontre pour des raisons sportives évidentes.
Et la commission de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence. Ce soir, elle devrait décider de premières sanctions. L'auteur du jet de bouteille venu des tribunes a été arrêté et placé en garde à vue.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Europe 1, il est 5h09. Les courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 816, Gigolo Lover. Idéalement engagé à la limite de la qualification et ayant encore peu couru, ce trotteur perfectible n'a certainement pas encore les gains en rapport avec ses moyens. Et je sais qu'il a été volontairement ménagé ces derniers mois en vue de ce meeting d'hiver de Vincennes. Dès lors, il devrait pouvoir, dès cet après-midi, s'imposer et justifier ainsi les bruits favorables dont il fait l'objet. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 16, Gigolo Lover.
Gigolo Lover, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, on vous en remercie et on revient dans moins d'une minute avec le pressing.
Votre revue de presse décalée et au menu, les fermes de la honte, quand les combattants de MMA s'affrontent à coups de pelochon et puis Hollywood versus China Wood. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon, réveil avec Europe 1, il est 5h11, c'est votre pressing du lundi matin pour bien commencer la semaine, on n'a pas trouvé une encore. Hein. Et on est rejoint par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Guadeloupe au cœur du brasier, titre aujourd'hui en France avec pour illustration un barrage en feu. L'opposition au vaccin a allumé la mèche d'un conflit social qui couve depuis des années, écrit Le Quotidien. Stationnement, limitation de vitesse, réglementation, ces mesures qui accablent les automobilistes, c'est le titre à la une du Figaro pour qui la possession d'une voiture est de plus en plus difficile. Et puis une nouvelle soirée de honte, titre L'Équipe qui revient sur le match OM arrêté après un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet dès la 5e minute de jeu. On en parlait à l'instant dans le journal. Le match a été définitivement arrêté après 2 heures d'atermoiement. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu ce matin ?
Un nouveau scandale de la maltraitance animale, c'est-à-dire dans Libération. Il faut avoir le cœur bien accroché. Connaissez-vous les fermes à sang ? Le nom en dit long, ce sont des exploitations où des juments sont saignées, c'est-à-dire qu'on leur retire plusieurs litres de sang lorsqu'elles attendent un poulain entre le 2e et le 4e mois de gestation. C'est à ce moment-là qu'elles sécrètent une hormone appelée ECG. Et cette hormone est utilisée pour fabriquer des produits afin de synchroniser les chaleurs des femelles et grouper les naissances dans les élevages. Des produits utilisés dans la plupart des élevages industriels français. Pour info, ils sont interdits dans les élevages bio. L'acte en lui-même est atroce. Et comme si ça ne suffisait pas, l'association française Wellfarm révèle qu'il est pratiqué dans des conditions ignobles. Un premier scandale avait éclaté en 2017 et concernait des fermes en Amérique latine. Dans la foulée, les industriels s'étaient alors détournés de ces exploitations à la faveur de fermes situées en Islande. Et bien, à travers des vidéos tournées en 2019, et il y a quelques semaines, Wellfarm a dévoilé le calvaire vécu par des juments, des chevaux, donc en pleine gestation, qui allaitent un autre poulain et à qui on prélève 5 litres de sang par semaine. Ça correspond à 15% de leur volume sanguin, une opération répétée chaque semaine, 2 à 3 fois par an. Les vidéos montrent des animaux affaiblis, tremblants, forcés à entrer dans des boxes à coups de bâton et maintenus évidemment de force. Malaise chez les industriels français qui se procurent cette hormone ECG en Islande. L'alternative serait évidemment la fabrication d'une hormone de synthèse. Les recherches sont en cours. Certains spécialistes de la reproduction animale expliquent que développer cette alternative coûterait très cher au laboratoire. La solution serait d'interdire purement et simplement les produits à base de CG qui viennent donc de ces juments en Europe. C'est ce que demande Wellfarm, qui espère voir la Commission européenne s'emparer de ce problème. Le calvaire des juments dans les fermes à sang, c'est dans Libération.
C'est absolument atroce.
C'est ignoble.
Article à lire évidemment dans Libération, je vous le conseille à tous. Merci Omblin. Martin, on vous écoute.
Nettement plus léger, hein,
oui,
pour moi.
Petite transition.
Alors, oui, la transition n'est pas trouvée du tout, donc on va faire plus léger, tout simplement.
Un nouveau sport ce matin, pas encore olympique malheureusement, mais que vous avez pratiqué, je pense, Omblin, Julien, il y a quelques années, la bataille de Polochon.
Je la pratique toujours.
Figurez-vous qu'il existe un vrai championnat professionnel de bataille de Polochon, le Pillow Fighting Championship, ça sonne bien, hein, n'est-ce pas ? Ça se passe évidemment aux États-Unis et ça a un succès fou, tellement que pour la première fois en janvier, la Ligue de Polochon professionnelle va organiser son premier meeting pay-per-view. Alors le pay-per-view, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'anglais, ça veut dire payer pour voir, car il y a une vraie demande outre-Atlantique pour visionner ces combats, hein, avec un vrai marché des droits télé, comme pour la Ligue 1 ou la Coupe du Monde chez nous. Ouais. Alors ces combats sont même commentés en direct, comme vous pouvez l'entendre.
Ah oui.
Vous l'avez compris, aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la bataille de Polochon. C'est très sérieux, comme l'explique le PDG de la Pillow Fighting Championship, interrogé par CNN. Ce n'est pas un sport où tout le monde rigole et les plumes volent en l'air. C'est de l'agitation hardcore d'oreillers spécialisés. C'est vrai qu'on est très loin de la bataille de Polochon entre frères et sœurs un soir de Noël. Les combattants sont des sportifs de haut niveau, souvent venus du MMA ou de la boxe. La seule différence, c'est que personne ne se blesse, appuie le patron de la fédération. Mais ces sports sont tellement proches que des membres de l'UFC, vous savez, c'est la grande ligue professionnelle de MMA, viennent s'entraîner dans les locaux de la ligue de bataille de Polochon, comme par exemple un certain Marcus Pérez, 12 victoires UFC, dont 3 par KO. Pas vraiment un enfant de cœur donc, mais qui adore venir frapper à grands coups d'oreiller. Ça ne fait pas de mal, ça fait bosser les esquives et son jeu de jambes. Et en plus, vous commentez devant un public en furie. Bref, l'entraînement idéal avant l'octogone. La bataille de Polochon professionnelle existe, elle se trouve en Floride. C'est à lire sur le site de Slate.
Il doit y avoir des règles en plus en termes de diamètre ou de forme de Polochon.
Ils ont tous le même.
C'est un ring de boxe.
Exactement.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Incroyable.
Avec la même petite clochette.
Voilà. Ce qui moi m'étonne, c'est que les combats de Polochon aux États-Unis ont un diffuseur, alors que notre championnat de basket en France n'en a pas.
Voilà.
Ouais. Ouais.
Je pense que les Américains ont plus le sens du spectacle que nous.
Oui. Bah là, clairement.
Voilà.
C'est QFD, hein.
Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse aux conséquences pour Hollywood de la nouvelle guerre froide que se livrent les États-Unis et la Chine. Et oui, comme le militaire, l'espace ou encore le sport, le le 7e art est aussi un domaine sur lequel Pékin et Washington s'affrontent. C'est même devenu un enjeu stratégique majeur pour la Chine, qui s'applique de plus en plus à effacer Hollywood des génériques. Et pour cela, le PCC, le Parti communiste chinois, a dévoilé au début du mois son nouveau plan quinquennal pour le développement de son industrie cinématographique. Il tient en trois points: étendre, produire et étouffer la concurrence. Avec son 1,5 milliard de consommateurs, la Chine est le plus gros marché mondial, ça se comprend. Mais encore faut-il pouvoir l'exploiter pleinement, ce marché. En clair, que tous les Chinois puissent se faire une toile quand ils le souhaitent. Voilà pourquoi Pékin veut avoir d'ici 2026 100 000 salles de cinéma au total, soit en construire 25 000 supplémentaires. À titre de comparaison, les États-Unis en totalisent 40 000 et sont plutôt en train d'en fermer avec l'essor du streaming. Ça, c'est pour le premier point, étendre. Avec plus de salles de cinéma en Chine, c'est bien, à en avoir, c'est bien, mais y diffuser des films chinois, c'est mieux. Et là, c'est le deuxième point, produire. Et ce qui est bien avec les communistes, c'est que les objectifs sont clairs. Tourner au moins 10 blockbusters majeurs par an. Et je ne vous dis pas la pression si vous êtes choisi pour réaliser l'un de ces films, puisqu'ils doivent être à la fois populaires et acclamés par la critique. C'est ce qui est écrit noir sur blanc sur le document. Si vous n'y arrivez pas, je vous laisse imaginer les conséquences. À cela doivent s'ajouter une cinquantaine de longs métrages très rentables, suffisants selon le PCC, pour assurer une programmation 100% chinoise et battre au box-office local les films américains. Mais comme on n'est jamais trop prudent, Pékin fait tout pour que les productions hollywoodiennes butent sur la muraille de Chine, en clair qu'elles soient projetées le moins possible, voire pas projetées tout court, c'est encore mieux. C'est le troisième point, étouffer la concurrence. Depuis le mois d'avril, les salles obscures chinoises ont pour consigne de privilégier les films locaux et pas n'importe lesquels, uniquement ceux qui sont à la gloire du PCC. Consigne a été donnée qu'ils soient projetés au moins deux fois par semaine et au meilleur créneau horaire. Voilà comment on fait d'une pierre deux coups de la propagande et de l'ombre à l'ennemi. Et puis même quand Hollywood fait des efforts, il y a un grain dans le sable. Prenez le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est le tout premier Marvel à présenter un acteur asiatique dans le rôle principal, un super-héros chinois, Pékin va adorer. Eh bien non, le film a été lancé le 3 septembre partout dans le monde, sauf en Chine, où il n'y a toujours pas de date de sortie programmée. Peut-être parce que l'acteur principal, un Canadien né en Chine, avait qualifié en 2017 l'Empire du Milieu de pays du tiers-monde.
Ça aide pas.
Ça veut pas, ça veut pas.
L'affaire Peng Shui, ça ferait un joli film, non?
Oui.
Eh ben là, on va proposer.
Il va se faire des amis, l'ami Martin Lange.
On va proposer plusieurs scénarios, je suis sûr que ça va prendre. Merci.
On va vous faire rencontrer l'ambassadeur de Chine en France. C'est un homme absolument ravissant.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, messieurs. Et c'est ainsi que se termine le pressing du jour. Martin, on vous donne rendez-vous dans 40 minutes.
À tout à l'heure.
Pour les sports, à tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce lundi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
30 personnes jugées en comparution immédiate aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, 38 nouvelles interpellations. Les violences rythment les nuits en Guadeloupe. Depuis une semaine, Jean Castex, le Premier ministre, reçoit les élus à 18h. Et le mouvement s'étend puisque 17 syndicats martiniquais appellent à la grève générale à partir d'aujourd'hui. Ils réclament la fin de l'obligation vaccinale des soignants, mais aussi la revalorisation des salaires et minima sociaux. Aux États-Unis, une voiture a percuté la foule d'une parade de Noël cette nuit dans le Wisconsin. Des morts sont à déplorer. 11 adultes et 12 enfants ont été transportés à l'hôpital. Blessés, l'enquête est en cours. Et puis, 8e incident du genre. Depuis le début de la saison de Ligue 1, le choc des Olympiques Lyon-Marseille définitivement arrêté hier soir après seulement 4 minutes de jeu. Dimitri Payet, le capitaine marseillais, a été victime d'un jet de bouteille en pleine tête.
Vous êtes élu chef d'entreprise, j'y retrouve tout, militant associatif ou simple citoyen, eh bien vous avez la parole à 5h20 sur Europe 1. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Audrey Destan.
Bonjour Julien, merci de me recevoir.
Mais merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice de Poppy et vous nous emmenez au petit coin car Poppy, c'est du papier hygiénique, du papier toilette qui, contrairement à ses concurrents, ou en tout cas à nombre de ses concurrents, prend soin de la planète. Expliquez-nous.
Exactement. Alors, Poppy, c'est une marque de papier d'hygiène au sens large. On s'est lancé avec du papier toilette, mais on commercialise aussi des mouchoirs et de l'essuie-tout. On a trois piliers qui sont très importants pour nos papiers. C'est qu'on a un pilier d'écologie, on ne fait que du papier recyclé. Un pilier social, puisqu'on ne fait que de la fabrication française, y compris notre matière première, c'est-à-dire que nos papiers recyclés proviennent de corbeilles de bureaux d'entreprises françaises. Et puis, on a un troisième pilier plus santé, puisqu'on n'a pas de parfum, pas de colorant, pas de dérivé du chlore dans nos produits finis.
Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a un papier toilette qui est tout blanc, c'est parce qu'il a été traité au chlore ?
Pas forcément. Alors, les produits en bambou, qui sont des alternatives écologiques aujourd'hui, sont traités effectivement avec des dérivés du chlore, mais c'est interdit en Europe. Par contre, les produits que vous pouvez retrouver sur le marché européen, en papier recyclé ou non, peuvent être effectivement blanchis. qui n'est pas le cas aujourd'hui des papiers Poppy.
Alors on ne s'en rend pas compte, mais la fabrication de papier toilette consomme énormément de ressources. J'ai été sidéré en découvrant ce chiffre tout à l'heure. 270 000 arbres sont abattus chaque jour juste pour du papier hygiénique.
Exactement. Alors pour tout type de papier d'hygiène, mais c'est assez impressionnant. En fait, c'est un papier qu'on utilise à peine 30 secondes, donc ça fait mal au cœur quand on s'en rend compte. Surtout qu'en France, 95% du marché de ces papiers d'hygiène, c'est justement de la fibre vierge, donc des arbres, qui provient essentiellement d'Amérique latine, voilà, des pays qui sont quand même assez loin. Et le papier recyclé, c'est uniquement 5% du marché en France. En Allemagne, c'est 25%, donc on voit quand même qu'il y a des modes de consommation qui changent, mais effectivement, 95% du marché, c'est de l'abattage d'arbres, en fait.
Alors, vous nous l'avez dit, votre papier toilette est fait à partir de papier récupéré dans les corbeilles des entreprises. C'est vous qui gérez la collecte et la fabrication ?
En fait, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de recycler leur papier et il y a des professionnels qui vont récupérer ces papiers, qui vont les trier. Grosso modo, ils vont mettre les blancs d'un côté et les colorés de l'autre. Et ceux qui vont être récupérés par les papetiers pour le papier recyclé, c'est uniquement le papier blanc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a moins besoin derrière de le traiter chimiquement, puisque les papiers ne sont pas lourdement ancrés au départ.
Alors être écolo, c'est très bien, mais être écolo et agréable à utiliser, c'est encore mieux. Il n'est pas trop rêche, Poppy ?
Alors, très bonne question. Effectivement, nous, on n'est pas des ayatollahs de l'écologie. Hein. On admet bien volontiers qu'on n'est pas du tout une marque zéro déchet, puisqu'on fabrique des déchets à partir d'un autre déchet. Donc, franchement, on n'a pas cette casquette-là. On fait partie un peu d'un mouvement d'écologie des petits pas, c'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'on n'est pas capable de se passer aujourd'hui de papier toilette jetable. Donc, nous, on n'est pas capable d'utiliser du lavable. Mais comment on peut faire pour l'améliorer ? Donc, ça, c'est notre côté écolo-pragmatique, on va dire. Mais par contre, on peut effectivement avoir un produit confortable en ajoutant, par exemple, un pli au double épaisseur traditionnel dans les magasins bio, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a lancé un autre produit qui a un papier toilette avec les mêmes propriétés, mais beaucoup plus confortable, avec une épaisseur en plus et un gaufrage un petit peu différent.
Allez, niveau prix, j'imagine qu'il est un peu plus cher que le papier toilette classique que l'on trouve dans le supermarché.
Oui, alors ça, c'est un de nos défauts. Pareil, on l'admet bien volontiers et on essaie de s'améliorer. En plus, ça fait que 2 ans qu'on existe, donc on fait très, très peu de volume. Nous, quand on sort un camion, on a des concurrents qui en sortent 1000, donc c'est compliqué de s'aligner niveau prix. On est capable de s'aligner dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les grands magasins, parce qu'on peut vendre en plus gros volume, justement. Par contre, sur notre site en ligne, on ne vend pas qu'un produit, on vend aussi un service puisqu'on propose aux gens, en fait, de ne pas manquer de papier dans l'année, donc ils peuvent se faire livrer des très, très gros volumes. C'est un modèle un petit peu plus anglo-saxon, ce qui leur évite ensuite d'aller au supermarché pour ces produits du quotidien qui sont nécessaires.
C'est-à-dire que vous proposez un abonnement ?
Alors, on peut effectivement choisir l'abonnement, se faire livrer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et on a aussi des options de packs très gros volume qui peuvent tenir une année entière. Et là, c'est pour des gens qui ont des capacités de stockage, mais qui préfèrent se faire livrer en une fois pour éviter justement d'avoir cette livraison à domicile qui consomme quand même du CO2.
Alors, au-delà du produit en lui-même ou des produits, hein, vous avez mis en place toute une communication, on va dire, rigolote autour de ce papier toilette. Déjà, rien que le nom Poppy, ça veut dire quoi ?
Alors oui, c'est vrai qu'on est une marque et on est très contents de pouvoir véhiculer nos messages d'écologie et sociétaux de façon un peu rigolote. Et donc ça a commencé très tôt, parce que moi quand j'ai créé la boîte il y a 2 ans, j'ai demandé autour de moi comment est-ce que vous dites je vais aux toilettes. Donc il y avait plein de termes plus ou moins polis et les plus rigolos c'était Popo et Pipi. Je me suis pas foulée à l'époque, j'ai collé les deux et puis ça a fait Popi. Voilà.
Merci beaucoup Audrey Destan d'avoir été avec nous ce matin, fondatrice de Poppy, le papier toilette qui fait du bien au derrière et à la terre. On vous trouve sur votre site internet poppy.co, poppee.co. A bientôt sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h28 sur Europe 1. Un coup d'œil Omblin sur le programme de la prochaine demi-heure.
Avec le choix série de Marie Jiquel, comme tous les lundis, une série australienne. Et avec comme ingrédient détonnant des familles riches de Sydney, des gouvernants de Philippines en colère et un collier volé. Ça s'appelle The Unusual Suspect et on en parle dans un quart d'heure.
Mais avant, on va revenir sur le cas épineux des prospectus papier qui inondent nos boîtes aux lettres.
Carrefour a annoncé la fin de l'impression de ses catalogues à Paris et à Lyon. Il se trouve que les adeptes des prospectus sont de moins en moins nombreux et beaucoup les considèrent inutiles, voire encombrants effectivement dans les boîtes aux lettres, surtout dans les grandes villes. L'enseigne compte faire de la publicité pour les produits qu'elle vend par voie digitale, par SMS ou via les réseaux sociaux et envoyer des catalogues papier uniquement à ceux qui en font la demande. Alors peut-on imaginer démocratiser cette distribution de catalogues dématérialisés sur tout le territoire ? C'est la question que nous poserons dans 10 minutes à un spécialiste de la grande distribution.
Anissa Dadi, un ciel bien dégagé aujourd'hui sur la moitié nord.
Oui, des Hauts-de-France jusqu'au Pays de la Loire, hein, sur le grand quart nord-ouest. Déjà ce matin, nous aurons de belles après-midi, de belles éclaircies, et ça va durer jusqu'à cet après-midi. Les éclaircies vont arriver, hein, au fil des heures sur le nord-est, sur la région parisienne, sur le centre. Donc vraiment, sur toutes les régions qui se situent au nord de la Loire, on a du très beau temps. Pourquoi ? Eh bien parce que le vent souffle, c'est la bise qui souffle, ce vent de nord-est qui est froid, qui va souffler jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche et jusqu'à 50 km/h à l'intérieur des terres. Alors sur la moitié sud, là, c'est un petit peu plus gris. Hein. On a un ciel couvert qui va rester gris toute la journée. On a de la neige en montagne à basse altitude, hein, sur le massif central et les Alpes à partir de 700 mètres et puis 500 mètres pour les premiers flocons dans le Pays Basque. Au bord de la Méditerranée, le soleil brille aujourd'hui et les températures sont en baisse avec cette bise qui souffle. Le thermomètre chute complètement. On a 1 degré à Belfort ce matin, à Saint-Étienne, 3 à Aurillac et Limoges, 4 pour Paris et Lille, 5 degrés à Bordeaux, 7 à Marseille et Dunkerque, 8 degrés à Cherbourg et 11 à Nice. Cet après-midi, écoutez bien, on aura seulement 4 degrés au Puy-en-Velay, c'est pas chaud, hein. 7 à Strasbourg, 8 degrés à Paris, 11 à Brest, 16 à Marseille.
Sortez donc bien couverts ce matin. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
5 minutes et puis c'est tout. Le match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille arrêté après un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. L'auteur présumé du geste est en garde à vue. Le débat Europe 1 CNews entre les 5 prétendants LR à l'investiture pour la présidentielle. La sécurité et l'immigration ont occupé le cœur de la soirée. Des candidats qui ont considérablement durci leur position. Explication dans ce journal. La France confrontée à une 5e vague fulgurante, dit Gabriel Attal. Plus de 16 000 cas quotidiens en moyenne. Certains scientifiques plaident pour un retour des tests gratuits pour ralentir la circulation de l'épidémie. Et puis le retour de l'enfant terrible du rock anglais, Pete Doherty publie un single à l'accent très français.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce devait être le choc de cette 14e journée de Ligue 1. Ça l'a été, mais pas comme on l'entendait. Le match entre Lyon et Marseille a duré 5 minutes avant d'être interrompu, puis définitivement arrêté après un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. L'auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Lyon plaide l'acte isolé, mais le mal est fait ce matin. La Ligue se réunira en urgence aujourd'hui et les sanctions risquent d'être très lourde. Retour sur une soirée de cauchemar avec Maxime Schoch qui suivait ce match pour Europe 1.
Au coup d'envoi de cette rencontre à 20h45, l'ambiance était pourtant magnifique. 56 000 supporters lyonnais réunis au Groupama Stadium pour ce choc des Olympiques. Mais 5 minutes plus tard, le match s'arrête. Dimitri Payet reste au sol. Le milieu de terrain marseillais vient de recevoir une bouteille d'eau sur le crâne alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner devant le virage nord. Les joueurs retournent au vestiaire. Seuls les Lyonnais referont une apparition d'une vingtaine de minutes, 1h15 plus tard. De longues minutes s'égrènent de nouveau avant une seconde et dernière annonce du speaker, il est 22h52.
Chers supporters, chers supporters, contrairement à l'annonce qui a été faite il y a quelques minutes, l'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée.
En conférence de presse quelques minutes plus tard, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a présenté ses excuses à Dimitri Payet. Reste que ce 6e dérapage cette saison en 14 journées de Ligue 1 risque de coûter très cher à l'Olympique lyonnais.
Maxime Schoch, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
La course à l'investiture des Républicains pour la présidentielle avec le 3e débat, c'était hier soir sur Europe 1 et CNews.
Et le thème de la sécurité et de l'immigration se sont rapidement invités autour de la table. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Éric Ciotti ont rivalisé d'imagination et de propositions pour tenter de chasser une ombre gênante, celle d'Éric Zemmour. Le polémiste pas encore officiellement déclaré pousse les ténors de la droite à surenchérir. Alexandre Chauveau, parmi les mesures proposées pour ramener le calme dans les quartiers difficiles, il y a le recours éventuel à l'armée. Comment les 5 prétendants comptent-ils s'y prendre ?
Pour Éric Ciotti, l'armée doit être utilisée dans les banlieues les plus difficiles. Aucun moyen ne doit être mis de côté, selon le député des Alpes-Maritimes, qui se dit donc favorable à ce que des soldats assurent non pas le maintien de l'ordre, mais une présence dissuasive. Nous sommes en guerre, dit-il, et c'est un symbole utile, selon lui, pour rétablir l'ordre. Valérie Pécresse abonde. Elle aussi souhaite utiliser les militaires en appui du travail des forces de l'ordre. La présidente de la région Île-de-France appelle à la création d'une brigade coup de poing composée de policiers, de douaniers, de juges et du fisc. L'armée servirait ici aussi à sécuriser ces zones pour faciliter le travail des policiers. De leur côté, Xavier Bertrand et Philippe Juvin s'y opposent. Tous les deux jugent qu'il faut simplement offrir plus de moyens à la police et surtout une réponse pénale ferme, une riposte républicaine, dit Xavier Bertrand. Michel Barnier propose enfin d'ouvrir un débat sur le rétablissement du service militaire par référendum. Il y voit un vecteur d'unité, de mixité et de brassage social, mesure souvent évoquée par la droite depuis sa suppression par Jacques Chirac en 1997, mais dont l'application a souvent fait débat.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
La crise sanitaire, la France pensait être à l'abri de la cinquième vague, pas du tout, c'est même tout le contraire, les chiffres de contamination s'emballent.
Même si cas positif ne veut pas dire obligatoirement malade, c'est un fait, la cinquième vague démarre de façon fulgurante, affirme Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a été l'invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Il a sonné l'alerte face à la multiplication des cas, près de 20 000 enregistrés hier encore. Pour l'instant, l'exécutif n'envisage pas de nouvelles mesures, même si les contrôles vont être renforcés, notamment le respect du pass sanitaire.
Et face à cette flambée, de nombreux scientifiques prônent le retour de la gratuité des tests.
Les épidémiologistes pointent un problème. Le déremboursement des tests Covid pour les non-vaccinés a eu l'effet inverse de celui recherché. Non seulement ils ne se sont pas fait vacciner, mais ils ne se font plus dépister. Une stratégie perdante qui empêche de freiner la circulation du virus, estime Pascal Crépet. Il est épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique de Rennes.
C'est surtout une question de lutte contre les cas secondaires, donc ces infections qui sont causées par les personnes qui sont infectées. On a besoin, à la veille d'une vague épidémique, que le système de détection des cas soit le plus efficace possible pour limiter le risque de transmission et éviter ainsi des chaînes de contamination qui ne seront pas évitées parce que ces personnes soit ne se feront pas tester, soit se feront tester trop tardivement. Et donc, c'est un problème. Il faut aussi que les personnes vaccinées reprennent le réflexe de se faire tester parce qu'elles peuvent, elles aussi, même vaccinées, être infectées et potentiellement, si elles sont infectées, transmettre le virus. Donc, ce réflexe du test doit revenir chez tout le monde.
Pascal Crépé avec Océane Théard.
En Guadeloupe, la situation menace de tourner au chaos sur fond de colère sociale.
30 personnes seront jugées en comparution immédiate aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences qui ont secoué l'île ce week-end. La grève générale contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants tourne à l'insurrection et au blocage total. Même si les principaux barrages routiers ont été démantelés, les écoles resteront tout de même fermées aujourd'hui.
Ailleurs en Europe, les mouvements de protestation contre les restrictions prennent de l'ampleur.
Aux Pays-Bas, la police n'a pas hésité à tirer à balles réel pour mater une manifestation contre les restrictions sanitaires qui a tourné à l'émeute à Rotterdam. Manifestation également en Belgique et en Autriche.
Le sport et la Formule 1, le duel est toujours plus serré entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.
Et ils ont franchi dans cet ordre la ligne d'arrivée du Grand Prix du Qatar. Au classement pilote, le Britannique revient à 8 points du Néerlandais. Il reste encore 2 courses. Et puis, saison terminée en rallye WRC et 8e titre de champion du monde pour le Français Sébastien Ogier, vainqueur hier du rallye de Monza.
C'est un enfant du rock, un enfant terrible, on va dire. Pete Doherty est de retour.
Le chanteur britannique sort un single, une balade composée avec l'aide du français Fred Lowe. Pete Doherty se lance dans un nouveau projet et en solo cette fois, Marie Gigel.
Fini les folles virées alcoolisées à Londres. Peter Doherty aspire à une vie plus calme dans sa nouvelle maison près d'Étretat en Normandie, une région inspirante pour le rocker dandy.
Du point de vue historique aussi, je me sens connecté avec la Normandie. Toutes les histoires de résistance, d'occupation et d'invasion. Et l'histoire ancienne aussi, depuis le roi Roland et les Vikings, ça me captive vraiment ces mythes.
Pour ce nouveau disque, Peter Doherty s'est entouré du compositeur français de Daniel Darc et Stéphane Echer, le musicien Frédéric Lowe.
Je trouve que c'est un très bon écrivain, c'est-à-dire mélanger une très belle phrase avec quelque chose de très cru.
Dernière touche française, les romans du Normand Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, qui ont accompagné Peter Doherty ces dernières années.
Voilà, The Fantasy Life of Poetry and Crime, c'est le nouveau titre de Pete Doherty, sujet proposé évidemment et rencontré par Marie Gigel.
Que l'on retrouvera d'ici quelques minutes pour son conseil série. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. Les courses, Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est à Vincennes que va se courir ce quintet. Parmi les 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans, priorité aux plus jeunes. Avec les numéros 7, Fair Play d'Urzy, visiblement au mieux comme le prouve sa dernière victoire obtenue avec courage sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon. 5, For You Madric, déféré des 4 pieds en vue de cet objectif. Et 4, Valzer di Poggio, un concurrent italien surtout pas condamné sur son dernier échec à Vincennes, lui qui auparavant avait fait preuve d'une louable régularité. Ensuite, je vous recommande Delfino, le numéro 14, fautif en fin de parcours, le 20 octobre à La Capelle, dans la 12e étape du Grand National du Trot et pour lequel son entourage en attend cet après-midi une totale réhabilitation, avec le numéro 12, Carnaval du Vivier, qui n'a qu'à répéter ce qu'il a réalisé de mieux pour conclure à coup sûr dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 10, Dexter Château, 8, Diablo du Noyer et 13, Baron du Bourg compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 5, 4, 14, 12, 10, 8 et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. Il est 5h39, vous restez avec nous. On parlera dans un instant du premier pas vers la disparition des prospectus papier dans nos boîtes aux lettres.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h41, très bon réveil à vous avec Europe 1. À partir du 17 janvier, Carrefour va arrêter de distribuer ses catalogues à Paris et à Lyon. Les promotions arriveront par mail, par SMS ou via les réseaux sociaux. C'est un peu la fin d'une époque. On en parle, Omblin, avec le président du groupe Aristide, spécialiste de la grande distribution.
Bonjour Rodolphe Bonas.
Bonjour.
Plus de catalogues Carrefour distribués à Paris et Lyon, cela correspond à 19 millions de catalogues imprimés en moins par an. Alors au-delà de l'économie que ça représente, dans notre monde où la lutte contre le gaspillage est devenue l'une des priorités, évidemment dans la lutte pour la protection de l'environnement, n'est-ce pas une bonne nouvelle?
Oui, ça, on peut imaginer que c'est une bonne nouvelle. Après, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux débats qui s'opposent pour savoir exactement quelle est l'empreinte carbone, l'empreinte écologique du papier par rapport au digital. Parce que vous savez que les deux se font concurrence. Hein, d'un côté, on coupe des arbres et de l'autre, on réchauffe la planète avec des serveurs qui sont souvent situés pas trop loin de la banquise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de polémiques sur ce thème. Mais il y a une tendance qui consiste à essayer de substituer ce média historique qu'est le papier, de le substituer par des opérations commerciales au travers de nos médias digitaux pour une raison toute simple. C'est qu'on passe de plus en plus de temps devant nos écrans, que ce soit les tablettes, les smartphones, les écrans d'ordinateur. Donc, c'est pas non plus inconvenant et idiot de la part des commerçants, des distributeurs, d'essayer de capter notre attention là où nous sommes présents le plus souvent.
Il y a un an, quand IKEA a annoncé mettre fin à la publication de son catalogue, cela a fait la une de tous les médias. Sommes-nous encore nombreux à être attachés au catalogue papier?
Alors oui, on est encore très nombreux à être attachés à ce catalogue papier pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un média à la fois historique, assez efficace, hein, parce que finalement, présent dans les boîtes aux lettres, il vous permet de feuilleter en une minute, deux minutes maximum entre 5 et 600 offres commerciales. Alors c'est vrai que les 600 promotions qu'on va vous proposer, toutes ne vont pas vous intéresser, mais vous allez trouver les 5, 10, 15 qui vont vous permettre d'aller fréquenter l'enseigne qui propose les meilleurs prix. Donc c'est un média extrêmement efficace, le papier. Donc pour contrebalancer, pour retrouver de l'efficacité dans les médias digitaux, il faut en effet mettre en place des campagnes qui soient extrêmement personnalisées. C'est-à-dire que là, on va utiliser tous les outils que le digital peut permettre d'offrir à ses commerçants, c'est-à-dire la capacité de savoir qui se trouve derrière le smartphone pour pouvoir non pas lui proposer 600 promotions, mais bien les 10-12 qui correspondent à qui nous sommes.
La fin des prospectus dans les boîtes aux lettres des habitants de deux grandes villes, Paris et Lyon, d'accord, mais est-ce que cela peut être envisageable partout sur le territoire?
Oui, ce sont des vraies questions, ce sont des tests. Ce n'est pas un hasard non plus que l'on commence par les zones les plus urbanisées. Pour une raison très très simple, c'est que l'accessibilité aux boîtes aux lettres dans ces zones de très forte densité de population est rendue difficile, voire même parfois impossible. Donc, se dire que là où le média papier n'était pas efficace, je le remplace par des nouvelles campagnes digitalisées, c'est une bonne idée, c'est une bonne opportunité. Donc, ma sensibilité, c'est que plutôt on va essayer d'étendre ces opérations à ces zones de très forte densité d'urbanisation parce que le média catalogue au travers des boîtes aux lettres qui sont de moins en moins accessibles, eh bien, je pense qu'on va les étendre à d'autres grandes villes. En revanche, en zone périurbaine et rurale, je pense que le média va continuer à perdurer.
Alors, on achète, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, d'acheter de plus en plus de produits de manière locale, proche de nous. Est-ce que cette décision d'arrêter en partie le prospectus papier, c'est aussi dire que nos habitudes de consommation ont changé? Quels sont nos rapports avec la grande distribution? Est-ce qu'ils ont évolué? Alors, est-ce qu'on va toujours en des grandes surfaces quand on habite Paris et Lyon?
Oui. On quitte de moins en moins les grandes villes pour aller dans des grandes surfaces à l'extérieur de nos villes, puisque une raison toute simple, ce sont les commerçants qui sont devenus au pied des centres-villes, au pied de nos quartiers, installer des magasins de plus petite surface. Mais vous avez raison, nos habitudes de consommation ont fortement évolué, et particulièrement à l'issue de cette pandémie qui, à un moment, nous a contraints, cantonnés chez nous. Et finalement, cette logique-là nous a permis de redécouvrir, en nous empêchant d'aller loin, eh bien, on a redécouvert des commerçants et des producteurs de très grande proximité. Mais la grande distribution s'est fortement adaptée, Vous voyez, lorsque vous déambulez dans les rayons de vos supermarchés ou encore de vos hypermarchés, il y a de plus en plus de corners, de points d'alerte sur le producteur local, celui qui se trouve de moins en moins loin. Et il y a eu cette grande vague, si vous voulez, de rapprochement entre des commerçants au plus proche de nos habitudes de consommation et des agriculteurs qui se trouvaient finalement très très proches d'eux. C'est ça l'idée, et c'est de plus en plus vrai. D'autant plus que les Français, nous, en tant que consommateurs, nous y sommes de plus en plus sensibles. Ces produits de grande localité sont attendus dans le panier, finalement, de nos courses de tous les jours.
Merci beaucoup, Rodolphe Bonnaz, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes président du groupe Aristide et spécialiste de la grande distribution. Merci.
Merci.
Il est 6h15 sur Europe 1 et c'est l'heure de la prescription culture. Le lundi, c'est série avec Marie.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Ambline et Julien.
Et en ce lundi frisquet, on va partir en Australie. Vous nous parlez de la série australienne The Unusual Suspects à découvrir sur OCS.
Oui, on va prendre une dose de soleil. Je sens que vous en avez besoin, de bling bling et de luxe aussi avec cette série qui est un mélange comique entre Desperate Housewives et Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar. Grand écart gagnant. On prend place dans les quartiers chics de Sydney, dans ces villas aux piscines interminables. Voilà, je vous vends un peu de rêve à 5h45. Et cette mise en scène convoque d'un côté les riches patronnes superficielles et de l'autre les femmes de ménage philippines. Ces deux classes sont surtout incarnées par la riche héritière Sarah et sa nounou Ivy, qui n'a toujours pas été payée et qui décide de réclamer son salaire. Sarah, la patronne, essaye de l'éviter en se cachant sous un bureau.
Madame ?
Oh, ça va, Ivy ?
Qu'est-ce que vous faites ?
C'est là que me viennent mes meilleures idées. C'est mon espace d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ?
Ma paye. Je vous avais dit que je passerais si j'avais rien.
Vous voulez qu'on aille à un distributeur au beau milieu de ma monstrueuse journée de travail, c'est ça ?
Oui, si ça ne vous ennuie pas.
Ah, mais bien sûr, pourquoi pas ? C'est pas comme si j'avais un vrai boulot à assumer.
Voilà, alors cette cohabitation, satire sociale mordante, emprunte quelques clichés. Pendant que les patronnes font du sport, gèrent leur compte Instagram et embrassent leur progéniture de loin, les employées, elles, s'occupent du linge et tissent de vrais liens avec les enfants, des relations employeur-employés basées sur des sourires forcés. Alors vous allez me dire que ce sujet a déjà été exploité mille fois à l'écran, mais là, la série surprend par son écriture très moderne. Cela donne des scènes franchement délirantes, des situations improbables, comme ce moment où Sarah inclut sa nounou à la table du petit déjeuner juste pour prendre une photo Instagram. Ivy en parle ensuite avec ses copines nounou, elles aussi.
T'as pas vu la photo de ta patronne ?
J'ai trop de boulot pour traîner sur les réseaux sociaux. Tu sais, rien n'est réel sur les réseaux. Tout est faux là-dessus. C'est comme cette photo. Vous croyez vraiment que j'ai le droit de manger leurs œufs ? Non, tout ce que j'ai le droit de faire chez eux, c'est récurer la poêle.
Voilà, alors ce rapport de dominant-dominé va basculer. La riche influenceuse n'a plus un rond. L'autre patronne entrepreneuse va réaliser que son patrimoine est basé sur une arnaque. Et parmi les employés, ce n'est pas tout rose non plus. Ces deux mondes vont donc devoir s'unir pour renflouer les caisses. Mais les vieilles habitudes reviennent, même quand nounou et patronne font ami-ami.
Comme je le dis toujours, rien ne rassemble autant les gens qu'une petite conspiration criminelle.
C'est vrai.
Bien. Et maintenant, qui veut servir le champagne pendant que vous m'informez des détails de cette audacieuse escapade? Merci, Ivy.
Voilà, donc on est presque dans une comédie de Molière ou Marivaux où les servants et les maîtres se retrouvent ligués, mais sans jamais mélanger les torchons et les serviettes.
Alors cette série comique et critique, c'est le dernier coup de cœur du Festival international de la série, le Festival Série Mania à Lille, qui a souligné d'ailleurs l'écriture très très vive, qui rappelle la comédie américaine des années 50. C'est ce qu'a écrit le festival.
Oui, tout à fait. L'écriture cinglante et ce scénario bien ficelé, soutenu par un langage naturel. La réalisation fuse aussi, hein, le montage juste de flashbacks, d'ellipses qui donnent aux téléspectateurs l'envie de continuer à regarder. Donc c'est plutôt efficace. Voilà une mini-série, il n'y aura pas de saison 2 qui vous tiendra au chaud pendant une semaine. Et enfin, cette série nous plonge aussi dans la réalité australienne et de la communauté philippine très présente là-bas. 10% des travailleurs immigrés philippins sont basés en Australie.
Ça s'appelle donc The Unusual Suspect. C'est à voir sur OCS. Merci beaucoup.
Désolée, je vous ai laissé dire le mot en anglais.
Unusual Suspect. Merci beaucoup, Marie Jucquel.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Des morts, une vingtaine de blessés dans le Wisconsin. Cette nuit, une voiture de type SUV a percuté la foule d'une parade de Noël. La police a fait feu contre le véhicule et l'enquête se poursuit. 8e soirée noire en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le choc des Olympiques Lyon-Marseille a été arrêté hier soir après seulement 4 minutes de jeu. Dimitri Payet, le capitaine marseillais, a reçu en pleine tête une bouteille d'eau jetée des tribunes. Situation explosive en Guadeloupe. Les renforts de forces de l'ordre sont arrivés sur l'île où les nuits d'émeutes se suivent depuis une semaine. Les élus locaux sont reçus aujourd'hui par Jean Castex, le Premier ministre, alors qu'au même moment, un appel à la grève générale est lancé par 17 syndicats en Martinique.
Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Une nouveauté ce matin dans votre matinale, le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et les récits de Pauline Jacquot. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous.
C'est aujourd'hui que s'ouvre le troisième procès en France lié au génocide au Rwanda. Un ancien chauffeur, Claude Muamimana, est jugé aujourd'hui aux assises à Paris pour complicité de génocide en 1994. Il est accusé d'avoir aidé des miliciens Hutus à commettre leur massacre sur les Tutsis. Pourquoi ces procès sont essentiels encore aujourd'hui, 25 ans plus tard? On va revenir avec vous, Pauline, sur le début de ce génocide, le 6 avril 1994.
Il est exactement 20h22 lorsqu'un avion est abattu au-dessus de Kigali, la capitale du Rwanda.
Dans cet avion se trouvait, outre le président Habyarimana, donc le président du Rwanda, le président du Burundi. Il n'y aurait pas de survivants.
Deux missiles ont été tirés sur l'appareil. C'est un attentat. Le président Hutu du Rwanda est mort. Les Tutsis sont accusés. Quelques minutes plus tard, des barrages sont érigés à Kigali. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui portent la mention Tutsi sur leur carte d'identité sont exterminés par les extrémistes Hutus.
On craint le déchaînement de la guerre civile entre ethnies rivales Hutu et Tutsi. Paris prend ses dispositions pour évacuer les 600 ressortissants français qui se trouvent actuellement au Rwanda.
En quelques heures, en quelques jours, les étrangers français, belges, américains fuient le Rwanda.
C'est surtout pour la petite qu'on avait peur. Le dernier jour, on était très soulagés que l'armée française arrive enfin, quoi. Mais bon, c'est un petit peu égoïste de dire qu'on est soulagés vu le nombre de morts qu'il y a là-bas. Des gens qu'on connaissait, des amis rwandais, quoi, qui travaillaient avec nous.
Dans les rues de Kigali, les massacres continuent, méthodiques, systématiques. Un représentant de la Croix-Rouge témoigne sur Europe 1.
Quand une équipe de la Croix-Rouge rwandaise essaie d'évacuer des blessés, tout à coup, il y a eu des milices qui ont sorti de cette voiture bien marquée avec la Croix-Rouge, 6 blessés, et puis les ont tués devant les yeux de ces membres de la Croix-Rouge rwandaise.
Les rebelles avancent, progressent, ils arrivent au sud-est du pays. C'est là que l'envoyé spécial d'Europe 1, François Clémenceau, rencontre un prêtre qui fait évacuer les derniers Tutsis.
Ce que j'ai vu, c'était affreux. C'était vraiment le massacre organisé. Des enfants dans ma paroisse, il y en a eu une trentaine qui ont été massacrés devant moi et je ne pouvais rien faire.
Le génocide va durer 3 mois, 100 jours qui feront au moins 800 000 morts.
Et plusieurs responsables du génocide vont s'enfuir, Pauline, en Europe.
En Belgique et surtout en France, les rescapés et les proches des victimes attendront 20 ans pour que se tienne le premier procès sur le sol français. Un ancien capitaine de l'armée rwandaise est condamné. D'autres ne sont toujours pas jugés, comme ce médecin réfugié en France qui aurait participé au génocide. Gwendoline de Bono a retrouvé en 2014 au Rwanda un milicien qui dit avoir obéi à ses ordres.
C'est le docteur Twagira qui nous a dit où ils étaient. C'est lui qui planifiait tout. Un jour, il nous a réunis à 8h du matin et il nous a dit d'aller chercher la femme et les cafards. On est entré dans la maison, on a trouvé la femme et ses deux enfants. On les a sortis et puis on les a tués avec des gourdins cloutés. Les enfants avant la femme. Twagira était là pour voir si le travail était fait.
Une centaine de génocidaires présumés seraient à ce jour réfugiés en France.
Merci Pauline Jacquot pour ce récit glaçant mais nécessaire. À demain.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Très bon lundi à tous sur Europe 1, il est 5h57. Dans un instant, la météo, le journal et un retour.
Un retour sur l'événement de la soirée d'hier soir, le troisième débat entre les candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Michel Barnier réunis sur Europe 1 et CNews. Et à 10 jours du premier tour du scrutin, force est de constater que le débat s'est droitisé. Déploiement de l'armée dans les quartiers sensibles, rétablissement du service militaire, moratoire sur l'immigration, supériorité de notre civilisation française. Voilà quelques-unes des propositions et réflexions entendues hier soir. Est-ce que ce sera suffisant pour éteindre le phénomène Éric Zemmour? On va analyser tout cela dans une dizaine de minutes maintenant avec le politologue Bruno Cotteresse. On écoutera ensuite votre partition, Mouline.
Le destin tragique d'une idole du rock des années 80. The devil inside, the devil inside. Michael Hutchence, disparu il y a 23 ans, leader charismatique d'In Excess, le récit dans 20 minutes.
Anissa Dadi, il va faire très beau au nord aujourd'hui.
Oui, on a une vraie différence entre le nord et le sud. Et alors la limite, la frontière, c'est comme d'habitude,
c'est la Loire,
exactement. Ah. Alors d'abord, ce matin, on a de belles éclaircies sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire et sur les Hauts-de-France. Donc ce matin, c'est vraiment le grand quart nord-ouest hein, qui est sous le soleil. Ce beau soleil, il est là grâce au vent qui souffle et qui souffle fort. Hein. C'est la bise, ce vent de nord-est qui va vraiment faire baisser les températures. Alors même si le temps est agréable, il va faire vraiment très frais ce matin. Et puis dans l'après-midi, au fil des heures, vous allez voir les éclaircies qui vont commencer à se décaler vers l'est du pays. Donc elles vont arriver sur le Grand Est, sur la région parisienne, sur le centre. Donc toute la moitié nord sera sous de belles éclaircies cet après-midi. On a le retour de la neige aussi, mais alors à basse altitude. Hein. Sur le massif central, les Alpes et le Jura, on a de la neige dès 700 mètres. Et alors, vous verrez les flocons dès 500 mètres sur les Pays Basques. Donc on
c'est assez bas. Hein.
Ouais, on a vraiment de la neige à basse altitude aujourd'hui. On a un temps qui risque d'être agité dans le sud-ouest, donc dans le Pays Basque, et sur la Côte d'Azur et la Corse, où là, on risque d'avoir des orages locaux. 1 degré à Guéret, 2 à Rodez, 4 à Paris et Nantes, 5 à Lyon, 7 à Marseille et 9 pour Ajaccio. Il fait frais.
Merci beaucoup Anissa et Dadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le lundi 22 novembre. Très bon réveil à tous, il est 6h.
Ce qu'on constate, c'est que cette cinquième vague, elle démarre de façon fulgurante.
Vive, soudaine, brutale, la reprise de l'épidémie s'accélère en France. L'alerte de Gabriel Attal face à la hausse des contaminations, plus 80% en une semaine. Comment expliquer une telle accélération? Réponse dès le début de ce journal. La Guadeloupe va-t-elle vivre une nouvelle nuit de violence? L'île est quadrillée par les forces de l'ordre. Des touristes, eux, restent bloqués à l'aéroport. Témoignage à suivre. Et puis la présence de l'ours en France, est-elle un danger pour l'homme? Un débat relancé par l'attaque d'un chasseur en Ariège ce week-end. Une première depuis 25 ans.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. D'abord, cette information tombée cette nuit. Au nord des États-Unis, plusieurs personnes sont mortes, fauchées par une voiture lors d'une parade de Noël. Le véhicule a renversé les barrières pour foncer sur la foule. 11 adultes et 12 enfants ont été transférés à l'hôpital selon les autorités locales. On retrouvera notre correspondante aux États-Unis dès le journal de 6h30.
C'est une histoire sans fin. Reconfinement strict pour tous les Autrichiens dès le début et dès ce matin et pour 3 semaines, une première en Europe depuis le printemps. Dans le pays, le taux d'incidence dépasse les 1000 cas de Covid pour 100 000 habitants, un record sur le continent.
La cinquième vague de l'épidémie frappe aussi la France. Un démarrage fulgurant même, estime le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité hier sur Europe 1. Plus de 18 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, plus 80% en une semaine. Océane Théard, comment explique-t-on une reprise aussi rapide? Eh bien d'abord à cause du variant Delta, plus contagieux. En ce moment, il circule massivement chez les 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées en France, ce qui accentue la pression sur les hôpitaux. Le variant Delta touche également les personnes vaccinées, mais sous des formes moins graves. Autre explication de ce rebond épidémique, le relâchement des gestes barrières depuis quelques mois, souligne Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille.
Les Français ont tendance à moins utiliser le masque, à retrouver les bonnes habitudes culturelles de se serrer la main et de s'embrasser. Quand on se retrouve le matin au travail, par exemple, on constate également que dans certains départements, le port du masque dans des lieux publics clos sous passe sanitaire est conseillé, donc n'est plus obligatoire.
D'après ce spécialiste, pour espérer un Noël serein, il faut poursuivre la vaccination, à la fois des non-vaccinés et des personnes recevant leur troisième dose, et remettre l'accent sur la distanciation sociale et le port du masque. Il s'agit d'éviter à tout prix une saturation des hôpitaux déjà accaparés par les épidémies de grippe et de bronchiolite.
Océane Théard.
Il est 6h02 en France métropolitaine, 1h02 à Pointe-à-Pitre. La Guadeloupe s'endort avec la gueule de bois. Combien de magasins seront pillés, de voitures brûlées ou de personnes interpellées cette nuit? Réunion à 18h à Matignon entre Jean Castex et les élus de Lille.
Il sera question de l'obligation vaccinale imposée aux soignants, une annonce qui avait allumé la mèche des protestations. Sur l'île, les barrages limitent les déplacements. Des touristes sont d'ailleurs bloqués à l'aéroport. C'est le cas de Vanessa qui attend depuis hier son vol retour vers Paris.
Nous devions décoller à 18h50. Nous sommes partis de l'hôtel à 14h50, alors que nous sommes à une demi-heure à peine de l'aéroport. Les chauffeurs, le matin, avaient passé toute la matinée à chercher des itinéraires pour pouvoir nous emmener de manière sécurisée jusqu'à l'aéroport, parce qu'il y a énormément de soulèvements sur la route. On a vu des voitures brûlées, on a vu des espaces de bus qui étaient complètement renversés, de la tôle. On sent que le climat est assez tendu. Nous devions embarquer à 17h50. Finalement, on a embarqué autour de 19h. On nous a installés dans l'avion. À 22h20, ils nous ont fait débarquer. Ils ont débarqué l'intégralité de nos bagages. Depuis, on est à l'aéroport. On nous a distribué des lits de camp, pas d'eau. Et depuis, on est sans information. Vraiment, l'hôtel a insisté en me disant que c'était vraiment pas du tout sécurisé de nous laisser repartir, qu'ils étaient tout à fait prêts à nous accueillir, mais que vraiment, ils ne pourraient pas garantir notre sécurité. Donc là, on est toujours dans l'attente.
Le témoignage d'une touriste française bloquée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et sur l'île, les écoles resteront fermées aujourd'hui.
Le grand bal des négociations salariales est ouvert. Selon le dernier baromètre CGT, 73% des professions intermédiaires estiment que leur rémunération est en décalage avec leur implication.
Et c'est 10 points de plus en un an. Une colère qui concerne aussi le secteur de l'hôtellerie-restauration. Les négociations ont commencé la semaine dernière. Plus 10,5%, voilà ce que propose le patronat. Insuffisant, répondent les syndicats. Prochain rendez-vous le 16 décembre. Et d'ici là, certains patrons prennent les devants pour attirer les travailleurs. Le reportage de Caroline Baudry.
Fermeture des cuisines avancée d'une heure, présence des employés le midi ou le soir, jamais pour les deux services. Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs et patron d'un restaurant parisien, ferme même le dimanche. Seul moyen d'étoffer son équipe, 7 de ses employés ne sont pas revenus après les confinements.
Tous ces gens-là se sont retrouvés chez eux. Ils se sont dit, mais oui, j'aime mon métier, mais oui aussi, j'aime ma vie privée. Si on ne change pas, on n'aura plus personne. Il faut qu'on sorte de ce schéma de forçat du travail. Nous ne sommes pas des mineurs.
Exactement ce qu'avancent les candidats que Paul, responsable de salle, voit défiler depuis 4 mois, en vain, malgré des salaires revus à la hausse, 10 à 20% de plus qu'avant le Covid.
Même ça, ça ne marche pas, parce que je vous dis, ce que les gens préfèrent, c'est les horaires. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie, parce qu'on peut lui proposer autre chose dans d'autres secteurs d'activité, où il va faire ses 39 heures, il va avoir ses samedis, dimanche, et il sera payé pareil.
70 heures par semaine, pour moins de 2000 euros par mois, Paul est aussi passé par là. Plus jamais, confie le cadre dans la restauration. Les entretiens se poursuivent. Il se dit prêt à négocier en faveur de la future recrue.
Caroline Baudry.
Une question à présent. La cohabitation entre l'ours et l'homme est-elle encore possible? Samedi, un chasseur a été grièvement blessé par une ours dans une forêt de l'Ariège.
L'homme de 70 ans a abattu l'animal croisé lors d'une battue au sanglier. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident qui relance la polémique entre pro et anti-ours. Philippe Lacube est le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège.
Comment voulez-vous cohabiter avec 60 ours sur une vingtaine de communes? Toutes les pratiques liées à la montagne, que ce soit le trail, le VTT, la randonnée et bien sûr l'élevage et la chasse sont mises en danger par cette présence de fauves partout dans la montagne. La fameuse cohabitation dont on rêve, eh bien, elle n'est pas possible parce que nous on y vit ici et que ce qu'on nous demande est absolument impossible sous peine de voir de plus en plus d'accidents comme ça se produire.
Alors les défenseurs de la réintroduction, eux, s'interrogent sur le comportement de l'animal qui préfère habituellement la fuite à la confrontation. Pour Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours Ardèche, cet accident reste l'exception.
La cohabitation, elle est parfaitement possible. La preuve, il y a des ours, il y a des hommes. Et c'est la première fois en 25 ans qu'un homme est blessé par un ours. Donc le risque lié à l'ours, il est quand même très faible. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Espagne, dans les monts Cantabriques, où il y a des battues, des chasseurs, et il y a une population qui est entre 350 et 400 ours, et il y a moins de problèmes. Donc c'est possible. Encore faut-il que chacun, effectivement, y mette du sien.
Témoignage recueilli par Yasmina Katou.
Merci beaucoup Romain Oquet, c'était le journal de 6h.
Il est 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec une nouvelle soirée de honte pour le foot français.
Oui, on joue depuis 3 minutes hier lors du choc Lyon-Marseille. Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner quand le meneur de jeu marseillais reçoit une bouteille d'eau en pleine tête. Le match est interrompu, les joueurs rentrent au vestiaire, le fauteur de trouble est interpellé, mais après 2 heures de flottement, le coup près tombe, match définitivement arrêté. L'arbitre Rudy Buquet assume sa décision au micro de nos confrères d'Amazon.
On se doit de protéger les acteurs du monde du football, et nous sommes les premiers garants de leur sécurité, donc c'est la raison pour laquelle la décision finale a été prise.
C'est déjà la 3e fois qu'un joueur de l'OM est touché par un projectile cette saison, sans compter les envahissements de terrain, mais le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, ne comprend pas cette décision.
Dans les incidents dont vous parlez, que ça soit à Nice ou que ça soit à Lens, on a des envahissements de stade. Là, on a une bouteille qui touche un joueur, ce qui est malheureux, mais on ne peut pas généraliser du tout ces actes-là.
La commission de discipline de la Ligue se réunit en urgence ce soir à 18h. Elle devrait déjà prendre des mesures conservatoires.
Retour sur la pelouse, Martin, car il y avait des matchs qui se sont joués aussi. Hein.
Oui, avec le naufrage de Lens à Brest, hein, défaite 4-0 des Artésiens qui chutent du podium. Et en bas du classement, un peu d'espoir et d'air pour Saint-Etienne. Hein, les Verts ont battu 3-1-0. Mais reste avant-dernier.
Dur allié avec un Français qui tire sa révérence de la plus belle des manières.
Oui, Sébastien Ogier s'est adjugé hier son 8e titre de champion du monde après sa victoire à Monza. C'est un de moins que la légende Sébastien Loeb, mais Ogier ne devrait pas viser le record. Son copilote Julien Inegrecia prend sa retraite et il devrait prendre un peu de recul l'an prochain. Écoutez.
J'ai envie d'en profiter, de prendre plus de temps pour moi, pour ma famille, mais bon, je pense bien qu'il y aura encore quelques courses au milieu de tout ça, parce que l'adrénaline du sport automobile, elle me fait toujours quand même vibrer. Et rien n'est très clair à l'heure actuelle, mais il faut être patient de temps en temps avant de savoir ce qui arrive.
Sébastien Ogier qui devrait toutefois être présent au premier rallye de la saison à Monte-Carlo sans Julien Ingrassia donc. Un mot de F1 aussi avec la nouvelle victoire hier de Lewis Hamilton au Grand Prix du Qatar. Le Britannique revient à 8 petits points de Max Verstappen au championnat du monde alors qu'il ne reste que 2 courses.
Merci, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va débriefer le 3e débat des Républicains que vous avez vécu hier soir sur Europe 1 et CNews. Nous serons dans une minute avec le politologue Bruno Cotteresse. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Très bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est politologue, chercheur CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po.
Bonjour Bruno Cotteresse.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin pour analyser ce 3e débat entre les candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. C'était l'événement hier soir sur Europe 1 et CNews. Michel Barnier, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Xavier Bertrand, ils sont 5. Est-ce que l'un d'entre eux est à vos yeux sorti du lot hier soir ?
C'est un débat hier sans gagnant et sans perdant, fondamentalement. Le 3e débat d'hier soir a permis peut-être beaucoup plus que les 2 précédents d'avoir davantage d'échanges en direct entre les candidats. Ils se sont beaucoup plus adressés les uns aux autres que ça n'avait été le cas au cours des 2 précédents débats. Ils étaient hier sur des thèmes sur lesquels ils étaient à la fois très attendus et en même temps des thèmes sur lesquels 5 candidats de droite sont forcément très à l'aise, et il n'y a pas eu véritablement de gagnant. On a vu au contraire se confirmer, on va dire, les tonalités, les spécificités de chacun.
Effectivement, il a été beaucoup question de sécurité, intervention de l'armée dans les quartiers difficiles, rétablissement du service militaire, moratoire sur l'immigration. Est-ce que l'ombre d'Éric Zemmour planait sur ce débat ?
Oui, l'ombre d'Éric Zemmour, évidemment, plane de toute façon sur l'ensemble de la séquence pour les Républicains et pour ces 5 candidats. On a vu hier, effectivement, toujours très fortement une trame commune, une sorte de socle commun qui unit assez fortement les 5 candidats. Et d'ailleurs, c'était un de leurs objectifs de faire passer le message aux électeurs, c'est-à-dire les adhérents des Républicains, qu'ils étaient unis et qu'on n'allait pas revivre eh bien, les mêmes disputes, les mêmes tensions qu'il y a eu dans la primaire de 2016. Donc cette trame commune, elle est beaucoup autour de la question de la loi et de l'ordre. L'ordre public, la sécurité publique, une justice ferme, des policiers davantage protégés, force à la loi dans les zones de non-droit. Et donc on a vu que ça occupait quand même beaucoup de place hier.
Et justement, est-ce que ce n'est pas le paradoxe de ces débats où il ne faut surtout pas s'affronter entre candidats ? Du coup, pour se démarquer, c'est un peu la surenchère dans les propositions ?
Alors, il y a à la fois de ça, effectivement. Chacun hier a essayé de trouver un petit peu un angle d'attaque qui lui soit un peu spécifiques qui lui permettent de jouer sa propre musique. Et effectivement, c'est l'une des difficultés, c'est d'arriver à se différencier sans pour autant montrer que, eh bien, on contredit trop fortement l'ensemble des autres candidats. Donc on a vu effectivement que chacun hier avait essayé de trouver un angle. Mais j'ai trouvé surtout qu'on voyait, moi, se confirmer, eh bien, le profil un peu de chaque candidat, le profil d'ensemble. On a retrouvé un Michel Barnier qui a voulu incarner la posture, on va dire, gaullienne, l'homme d'État, l'homme qui revendique toujours un petit peu son statut à part, lui qui est le négociateur du Brexit et qui veut s'intéresser, il l'a dit dès le début, à la question institutionnelle. Xavier Bertrand hier soir voulait faire passer à nouveau l'image eh bien, du gaulliste social, celui qui nous dit que s'il est élu, il aura un grand plan sur la question du handicap. Valérie Pécresse, extrêmement punchy, toujours la présidente de la région Île-de-France. Et on a retrouvé Éric Ciotti, le droitier, le pourfendeur du politiquement correct.
Et puis il y a aussi Philippe Juvin qui s'est à plusieurs reprises démarqué hier soir avec notamment cette phrase « Notre civilisation est supérieure aux autres ». Ça aussi, ce sont des déclarations que les LR n'osaient pas il y a encore quelques semaines, quelques mois.
Oui, très clairement, effectivement, et on a vu même un paradoxe hier chez Philippe Juvin. Il commence le débat en disant « moi, je ne veux pas que notre famille politique se miniaturise ». C'est l'expression qu'il utilise. Il dit « il faut essayer de parler d'autre chose ». Par exemple, il faut parler eh bien, du changement climatique. Il a essayé aussi, à un moment donné, de dire que sur les questions migratoires, il fallait surtout réfléchir à un plan de développement du continent africain.
Et puis, il ne veut pas toucher aux fonctionnaires.
Et voilà. Et puis d'un seul coup, il ne veut pas réduire les fonctionnaires. Et d'un seul coup, eh bien, il nous sort quelque chose qui est effectivement une posture très, très droitière sur le plan culturel en disant que notre civilisation est supérieure aux autres. Donc on a vu là effectivement toujours un petit peu l'ombre portée d'Éric Zemmour.
Il ne reste plus que 9 jours avant le premier tour du scrutin, le 1er décembre. Lequel de ces 5 candidats a aujourd'hui tout intérêt à prendre des risques, quitte à perdre des points au final ?
Eh bien, prendre des risques aujourd'hui, ça serait un petit peu compliqué. On est effectivement très très proche du scrutin, mais c'est vrai que on avait 2 favoris au tout début, hein, lorsqu'il y a plusieurs semaines. Eh bien, les 5 candidats ont accepté le principe de cette primaire fermée devant simplement les militants. Et c'est vrai que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand figuraient à l'époque un petit peu comme des favoris, et Michel Barnier a percé progressivement. Je dirais que si une personnalité doit prendre un débris, c'est forcément l'un de ces trois-là. Avec l'un de ces trois-là, on tient sans aucun doute le futur candidat des Républicains.
Après, c'est une compétition, je crois, complètement illisible, hein, vu qu'il y a cette grosse inconnue dans le scrutin, c'est le vote des quelques 150 000 adhérents, dont près de la moitié ont adhéré au parti il y a seulement quelques semaines.
Oui, c'est très dur d'anticiper parce que lorsqu'on regarde un petit peu la géographie, c'est-à-dire dans quel département ces nouveaux adhérents sont arrivés, on voit qu'il y a des fédérations qui comptent évidemment certains des candidats. On a vu que dans les Hauts-de-France, on a vu que dans le sud de la France, on a vu qu'en Île-de-France, on avait un accroi de nouveaux adhérents des Républicains. Donc on voit que ça a mobilisé du côté des camps, des principaux candidats. Mais il est très difficile. Vous savez, prévoir le résultat d'une élection primaire, ça n'est pas du tout un sondage comme un autre. Il est très difficile de savoir dans quelle direction ça va aller. Et sans aucun doute que les 3 débats, et les débats auront eu quand même un effet à un moment donné. On a vu au cours des débats eh bien, les caractères, les particularités, le tempérament de chacun des candidats. Et ça, les militants vont être très sensibles à ces questions.
Résultat le 4 décembre. Merci beaucoup Bruno Cotrez d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF à Sciences Po. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20 sur Europe 1, bienvenue à vous. Voici les principaux titres de ce lundi avec Alban Le Prince.
La parade de Noël vire au drame aux États-Unis où une voiture a percuté la foule cette nuit dans le Wisconsin. Les autorités font état de morts. 11 adultes et 12 enfants blessés transportés à l'hôpital. Le suspect est en garde à vue, une enquête est en cours. En Guadeloupe, les violences continuent malgré l'arrivée de renforts venus de l'Hexagone. L'île est en proie aux émeutes depuis une semaine. Une réunion est prévue à 18h entre Jean Castex, le Premier ministre et les élus locaux. Nouveau match de la honte hier soir en Ligue 1. La rencontre Lyon-Marseille définitivement arrêtée après seulement 4 minutes de jeu. Après que Dimitri Payet, le capitaine marseillais, a reçu une bouteille d'eau en pleine tête jetée des tribunes.
On termine avec votre partition en ligne consacrée à Michael Hutchence. Vous nous racontez le destin tragique du chanteur et leader d'INXS, disparu à l'âge de 37 ans.
Un chanteur à la silhouette longiligne, Julien, à l'allure d'un jeune Mick Jagger, dans la même veine qu'un Bono de U2, une vie brûlée par les deux bouts jusqu'à son suicide le 22 novembre 1997.
You might know Michael Hutchence présente tous les stigmates d'une vie cabossée.
Il naît en Australie et passe les premières années de sa vie dans des hôtels à Hong Kong à suivre son père, un représentant de commerce, un enfant déraciné, solitaire, renfermé qui, adolescent, va s'épanouir dans la musique rock. Dans les années 70, Michael Hutchence se reconnaît dans l'ère du punk et trouve sa voix. Dans les deux sens du terme, à l'aube des années 80, après avoir écumé les scènes locales, son groupe prend définitivement le nom d'INXS.
INXS se met à surfer sur la vague post-punk.
Le groupe s'épanouit dans le nouveau courant pop qui émerge, qu'on appelle New Wave.
Et à mesure que sa réputation grandit, Michael Hutchence multiplie les excès.
Les habituels excès des idoles, des rockstars, cocktails de drogue et d'alcool. Il collectionne les top modèles et les Harley Davidson. En 1986, INXS entame une tournée mondiale et fait la première partie du groupe Queen en Angleterre. La consécration a lieu l'année d'après avec Need You Tonight. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat.
INXS tourne dans le monde entier, vend des millions de disques, mais se met pourtant à décliner.
En cette fin de décennie 80, Michael Hutchence a de plus en plus de doutes sur la carrière d'INXS. Il a l'impression de stagner, tandis que U2, de son ami Bono, ne cesse de s'envoler longtemps sur la réserve. Le Royaume-Uni déroule enfin le tapis rouge à INXS en 1991. Quelques jours après, à un concert aux Hurricanes de Belfort, le groupe entre dans l'histoire du stade de Wembley à Londres grâce à un concert mémorable. Pourtant, INXS, qui semble si flamboyant, commence à perdre de sa superbe. L'inexorable déclin s'enclenche jusqu'à la disparition dramatique de Michael Hutchence. À la veille de repartir en tournée pour les 20 ans d'INXS, le chanteur se suicide dans sa chambre d'hôtel à Sydney. Words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. Well, here comes the man with a look in his eye. Fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. The devil inside, every single one of us. The devil inside, devil inside, devil inside, every single one. Extrait de l'album Kick de 1987, l'un des meilleurs d'INXS avec sa cargaison de succès qui propulse les Australiens sur la scène rock internationale. David Inside sur Europe 1, le leader d'INXS Michael Hutchence a disparu il y a 13 exactement 24 ans.
Merci beaucoup Omblin, vous restez avec nous, dans un instant votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko, à tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27, excellente matinée, on se quitte ici, mais on vous donne rendez-vous demain.
Et votre matinale sur Europe 1 se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.